Isabelle Eberhardt, l'anarchiste. Le père Teleneti Antonov, persécuté en Russie pour ses convictions libertaires, sur le point d'être exilé, avait fui en Algérie, cherchant une terre neuve, une patrie d'élection, où, sous un ciel clément, les hommes seraient moins encroûtés de routine. Presque riche encore, il avait fondé une ferme dans un coin riant du Tell, et là, entre les champs et ses livres, avait poursuivi son rêve d'humanité meilleure. Cependant, il avait rencontré là des colons européens, le même accueil hostile, et peu à peu, il avait dû se retirer, se replier sur lui-même. L'esprit de son fils unique, Andrei, déjà grand, avait, de cette brusque transplantation, subi une perturbation profonde. Tout le vague, tout l'attirant mystère des horizons de feu était entré, grisant son âme prédestinée d'homme du Nord. Vivant à l'écart, ce n'étaient point les hommes, c'était la terre d'Afrique elle-même qui l'avait troublée profondément. « Tu es un poète de la nature, » lui disait son père avec un sourire d'indulgence, « comme j'ai été celui de l'humanité. Nous nous complétons. » Mais Andrei s'accommodait difficilement de la vie cloîtrée qui suffisait à la lassitude de vivre du vieillard. La hantise de l'inconnu, la nostalgie d'un ailleurs où il se fût senti vivre harmoniquement, sans aspiration jamais assouvie, l'étreignait. Parfois, des mois entiers durant, il n'ouvrait plus un livre, passant ses jours à errer dans les douars bédouins, à s'asseoir avec les primitifs et les infirmes qui lui rappelaient les moudjiks de son pays, ce que son père lui avait appris à aimer et à comprendre. Le vieux philosophe ne condamnait pas ses erreurs, cette vie nomade dont il comprenait le charme et la salutaire influence pour les avoir ressentis jadis. « Tu as raison, va-t'en aérer ton esprit. Va manger le pain noir et participer à la misère et à l'obscurité fraternellement. Ça te fera du bien. » Et peu à peu, Andrei se laissa prendre pour jamais par la terre âpre et par la vie bédouine. Son esprit s'alanguit tout en restant subtil et curieux. Sa hâte de vivre se ralentit et il escompta avec dédain la vanité de tout effort violent, de toute activité dévorante. Quand, ayant opté pour la nationalité française, il entra aux chasseurs d'Afrique et fut envoyé dans un poste optique du Sud, son ennui et son dégoût d'être soldat firent place à la joie du voyage et de la révélation brusque, flamboyante du Sud. Les splendeurs plus douces de la lumière tellienne lui semblèrent pâles là-bas, au pays du silence et de l'aveuglant soleil. Un borge surmonté d'une haute tour carrée, sur une colline nue, au milieu d'un désert d'une aridité effrayante. Pas une plante, pas un arbre faisant tache sur la terre creuse, tourmentée, calcinée. Et tous les jours, inexorablement, le même soleil dévorateur, arrachant à la terre sa dernière humidité, lui interdisant, jaloux, de vivre en dehors de ses jeux à lui, capricieux aux heures d'opale du matin et de pourpre dorée du soir. Là, Andrei comprit le culte des humanités ancestrales pour les grands luminaires, célestes, pour le feu tout-puissant, générateur et tueur. Ce borge, sur la porte duquel les joyeuses ironiques avaient inscrit le surnom de « Éden puré », Andrei l'aima. Entouré de quelques camarades avides de retour et que seul l'absinthe consolait d'être là, Andrei s'était isolé pour mieux goûter le processus de transformation heureuse qu'il sentait sourdre des profondeurs de son être. L'inquiétude, la souffrance indéfinissable qu'il avait torturé pendant les années de son adolescence faisait peu à peu place à une mélancolie calme, douce, à un rêve continu. Il ne disait plus, se contentant de vivre. Il n'abandonnait pas sa résolution de devenir un jour le poète de la terre aimée, de refléter avec son âme plus sensitive de septentrionale la tristesse, l'âpreté et la splendeur de l'Afrique. Mais il se sentait incomplet encore et voulait son œuvre parfaite. Il regardait avec des yeux d'amoureux, lentement, laissant les impressions s'accumuler tout naturellement par petites couches ténues. Et l'instinct inassouvi d'aimer voilait d'une tristesse non sans charme cette existence toute de silence et de rêverie. Andrei avait fini son année de service et il retourna, plein de la nostalgie du Sud, auprès de son père, juste à temps pour le voir tomber malade et mourir. Reste toujours sincère envers toi-même. Ne te plie pas à l'hypocrisie des conventions. Continue à vivre parmi les pauvres et à les aimer. Tel fut le testament moral que, dans une heure de lucidité, que lui laissa la fièvre, lui laissa son père. L'immense douleur de cette perte assombrit pour longtemps l'horizon souriant de la vie d'Andrei. Le vieil homme souriant et doux, le modeste savant ignoré qui lui avait appris à aimer ce qui était beau, à être pitoyable et fraternel à toute souffrance, l'éducateur qui avait veillé jalousement à ce qu'aucune souillure n'effleurât l'âme de l'enfant et de l'adolescent, qui n'avait point permis que l'hypocrisie sociale imprima son sceau déprimant sur son cœur, Terenti n'était plus. Et Andrei se sentit tout seul et tout meurtri au milieu des hommes qui sentaient hostiles ou indifférents. Mais l'obligation où il se trouva de mettre en ordre les affaires de son père fut pour lui une diversion salutaire. Puis se posa ce problème troublant. Que deviendrait-il? Alors Andrei se souvint de sa vie dans le sud et il la regretta. Et il songea. Mais pourquoi ne pas retourner là-bas, libre pour toujours? Il vendit la ferme, transporta les livres de son père chez une vieille amie réfugiée polonaise exerçant l'humble profession de sage-femme à Oran. Et, toute dette payée, il eut quelques dizaines de mille francs pour réaliser son projet. Il retourna s'agenouiller pieusement sur la tombe sans croix du vieux philosophe dans un petit cimetière sur une petite colline dominant la baie de Mostaganem. Et il partit. Andrei songea qu'il suffisait de posséder le don précieux de tristesse pour être heureux. Il était venu s'installer là, dans l'ombre chaude des dattiers de Taberna Jedida, dans le lit salé de l'oie de rire souterrain. Il avait acheté quelques palmiers, une source salpêtrée qui vivifiait de ses ruisselets clairs le jardin, et une petite maison cubique en tout rougeâtre. Le bureau arabe dont dépend l'oasis avait bien cherché, par haine de l'élément civil, surtout indépendant, à détourner Andrei de son projet. On avait usé envers lui de tous les procédés de la persuasion rusée, de l'intimidation. Il s'était heurté à la morgue, à la suffisance des galonnés improvisés administrateurs, mais sa calme résolution avait vaincu leur résistance. Il savait cependant que le climat de cette région est meurtrier, que la fièvre y règne et y tue même les indigènes. Mais n'avait-il pas séjourné de longs mois dans le bas de cette vallée de l'Oued Rir, près de son embouchure, dans le Chott Mellriri? Il n'avait jamais été malade, et il résisterait. Il aimait ce pays mystérieux, hallucinant, où toute la chimie cachée de la matière s'étalait à fleur de terre, où l'eau iodée et salée dessinait de capricieuses arabesques, blanches sur les herbes frêles des séguillas murmurantes, où tintait en rouge de rouille le bas des petits murs en toube qui faisaient des jardins un vrai labyrinthe obscur. Partout l'eau suintait, creusait des trous des étangs profonds, à la surface immobile et attirante, où se reflétaient les frondaisons graciles des palmiers, les feuilles charnues des figuiers et les pommes rouges des grenades. Puis tout à coup, sans transition, le désert s'ouvrait, plat, immense, d'une blancheur aveuglante. Le sol spongieux se recouvrait d'une mince couche de sel avec de larges lèvres d'humidité brune. Tout cela flambait, scintillait à l'infini, avec très loin à l'horizon de minces taches noires qui étaient d'autres oasis. Et à midi, en été, le mirage se jouait là, dans la plaine morte, d'où la bénédiction de Dieu s'était retirée. En hiver, les chottes et les sepkas s'emplissaient d'une eau claire, azurée ou laiteuse, et les aspérités du sol formaient dans ces mers perfides des archipels multicolores. Vêtus comme les indigènes, Andrei vivait de leur vie, accepté d'eux et bientôt aimé, car il était sociable et doux, et les guérissait presque toujours quand, malade, il venait lui demander conseil. « Il deviendra musulman, disait-il, l'ayant entendu répéter souvent que Mohammed était un prophète, comme Jésus et comme Moïse, venus tous pour indiquer aux hommes des voies meilleures. Les habitants de Tamerna étaient des rouaras de race noire, saharienne, une peuplade taciturne, d'aspect sombre et de piété ardente, mêlée de croyances fétichistes aux amulettes et aux morts. La magie menaçante, le silence du désert, contrastant avec le mystère et le murmure vivant des jardins inondés, avaient imprimé leur sceau sur l'esprit des habitants et assombrissaient chez eux la simplicité de l'islam monothéiste. Grands et maigres sous leurs vêtements flottants, encapuchonnés et portant au cou de longs chapelets de bois jaune, les rouaras se glissaient comme des fantômes dans l'enchevêtrement de leurs jardins. Pour préserver leur date de sortilège, ils attachaient des os fétiches au régime mûrissant. Ils ornaient de grimaçantes figures les corniches et les coupoles ovoïdes de leurs koubas et de leurs mosquées pétries en toubes. Au coin de leurs maisons, semblables à des ruches, ils piquaient des cornes noires de gazelles ou de chèvres. La nuit du jeudi au vendredi, nuit fatidique, ils allumaient de petites lampes à huile près des tombeaux disséminés dans la campagne. Ils subissaient la hantise de l'au-delà, des choses de la nuit et de la mort. Andrei ouvrait largement son âme à toutes les croyances, n'en choisissait aucune, et ses superstitions naïves ne le révoltaient point, car après tout, il y discernait ce besoin de communier avec l'inconnu que lui-même ressentait. Les femmes au teint obscur étaient belles, les métisses surtout, sous le costume compliqué des sahariennes qui leur donne l'air d'idoles anciennes. Drapées de voiles rouges ou bleues, chargées d'or et d'argent, avec une coiffure large faite de tresses relevées au long des joues, recouvrant les oreilles de lourds anneaux, elles s'enveloppaient pour sortir d'une étoffe bleue sombre qui éteignait l'éclat des bijoux. Leur charme étrange, le mystère de leur regard, attirait Andrei. Voluptueux, mais recherchant les voluptés grisantes, illuminées de la divine lueur de l'illusion d'aimer, sans brutalité d'appétit, Andrei n'avait jamais trouvé qu'une saveur très médiocre aux assouvissements dépouillés de toute âme de rêve. Ce qui l'en éloignait surtout, c'était leur banalité et la rancœur de l'inévitable et immédiat réveil. Et il aimait à voir passer, dans l'incendie du soir, les jeunes filles porteuses d'amphores, s'en allant en longue théorie au pays au pas rythmé, vers les fontaines d'eau plus douces, aux confins du désert où le soleil mourant allongeait leurs ombres sur le sol brûlé. La vie d'Andrei s'écoulait en une quiétude heureuse, monotone et sans ennui. Il se levait à l'heure légère de l'aube pour goûter la vivifiante fraîcheur de la brise discrète qui feuilletait les palmes et les végétations aromatiques des jardins. Sur son cheval, qu'il aimait de sa tendresse apitoyée pour les animaux résignés et confiants, il s'en allait dans le désert, poussant parfois vers les oasis voisines, nombreuses dans la vallée, parées à cette heure première des lueurs d'or et de carmin. Le grand espace libre le grisait, l'air vierge dilatait sa poitrine, et une grande joie inconsciente rajeunissait son être, dissipant les langueurs de la nuit chaude, succédant à l'embrasement du jour. Puis il rentrait, errait dans les jardins, regardant les fellahs bronzés, remuer la boue rouge des cultures, enlever les dépôts salés, obstruant les séguias. C'était l'été, et les palmeraies lui apparaissaient dans toute leur splendeur. Sous le dôme puissant des palmes, les régimes de dattes pendaient, gonflés de sève, richement colorés selon les espèces. Les uns, verts encore, avec une poussière argentée veloutant les fruits, les autres, jaune paille, jaune d'or, orange, rouge vif ou pourpré, en une gamme chaude de tons mat ou luisants. Longuement, Andrei se penchait sur le ruissellement de l'eau jaillissant des dessous mystérieux du fleuve invisible. Puis il rentrait dans la fraîcheur de sa chambre fruste et s'étendait sur son lit en roseau pour s'abandonner à la mortelle et ensorcelante langueur de la sieste. Quand l'ombre des dattiers s'allongeait sur la terre excédée, Adjafaïd, le serviteur d'Andrei, le réveillait doucement, le conviant à la volupté du bain. Parfois, repris de la nostalgie du travail, Andrei écrivait de temps en temps, à de longs intervalles. Il rappelait son souvenir aux chercheurs de littérature subtile par des contes du pays de rêve où il mettait un peu de son âme et de sa vie. Sur la route de Tougourt, non loin des grands cimetières enclôturés, deux femmes vivaient, la vieille Maennia et sa fille Saadia, que son père avait répudiée parce qu'on disait dans le pays qu'elle et sa mère étaient sorcières. Elle vivait pauvrement du gain de la vieille, sage-femme et herboriste, rebouteuse habile. On les respectait dans le pays, on les craignait à cause des bruits qui avaient couru sur leur sortilège et de l'inexplicable mort du mari de Saadia peu après son divorce. De race métisse, presque arabe, les deux femmes se souvenaient de leurs origines sémites et s'en faisaient gloire. Saadia était belle et son visage ovale, d'une couleur ombrée et chaude, était tout empreint de la tristesse grave des yeux. Elle vivait modestement chez sa mère, et malgré sa beauté, les rois haras superstitieux la fuyaient. Andrei, au cours de ses promenades solitaires, la vit plusieurs fois, et la vieille, inquiète du succès du Rumi comme guérisseur, tint à ne pas s'attirer son hostilité. Elle lui offrit le café de l'hospitalité, ne lui cacha pas sa fille. Saadia fut attentive à le servir et silencieuse. Andrei savait les bruits mystérieux qui couraient sur ses femmes et l'étrangeté de leur existence l'avait attiré et charmé. La beauté de Saadia et sa tristesse furent pour lui une délicieuse trouvaille. Il revint désormais souvent chez la vieille. Il désira Saadia et ne se défendit pas contre son désir. Ne serait-ce pas un embellissement de sa vie trop solitaire que l'amour de cette fille de mystère, et une fusion plus entière de son âme avec celle de la terre élue par l'entremise d'une créature de la race autochtone? Voluptueusement, Andrei s'abandonna à la brûlure enivrante de son désir. Saadia, impénétrable, ne trahissait pas sa pensée que par le regard plus lourd par lequel elle achevait d'étreindre cet homme blond, aux yeux gris, au visage de douceur et de rêve. Toute la révolte de sa jeunesse solitaire, tout son besoin d'être aimé, de ne pas rester comme une fleur épanouie dans le désert muet, Saadia les reporta sur ce seul homme qui ne la fuyait pas. Moins timide, bientôt, elle lui parla, lui cita les noms des herbes séchées qui pendaient en gerbe sous le toit de leur maison et leurs vertus ou leurs poisons. Ça, c'est le nania odorant, dont le jus guérit des douleurs du ventre, et ça, c'est le chichgri, dont la fumée arrête la toux. Sa voix de poitrine, vibrante, parfois saccadée, avait un accent étrange pour parler cette langue arabe qu'Andrei possédait maintenant. D'autres fois, Saïdia lui nommait les bijoux qu'il apparaît. Un jour, pour la mieux deviner, Andrei lui demanda de quoi était mort son mari. « Quand l'heure est venue, nul ne saurait la retarder, du temps qu'il faut pour cligner de l'œil. Et celui qui commet l'iniquité encourt la colère de Dieu. » Une ombre passa dans le regard de Saadia. Un jour, il la trouva seule au logis. Leur maison était isolée et voilée par le rempart des palmiers. Elle lui sourit et l'invita à entrer quand même. « Viendra-t-elle bientôt, ta mère ?»«
Non, elle ne viendra pas. Mais viens-tu ici pour elle seule, qui est vieille et dont les jours sont écoulés ?»
Et Andrei, dans la douloureuse ivresse d'aimer, la regarda. Souriante, le regard adouci, elle était debout devant lui, accueillante. Pour la première fois, Andrei connut toute la volupté des sens qu'il avait savamment préparée, l'embellissant de tout son rêve. Quand la lune du soir remplit la chambre, Saadia le congédia doucement par prudence.
« Fais un détour. Je ne sais si la vieille pardonnera. Il vaut mieux que je la sonde d'abord. »
Et Andrei s'en alla. Le désert tout rouge brûlait, et une ombre bleue s'étendait comme un voile sous les palmiers dont les sommets s'allumaient des graines de feu. Et Andrei s'arrêta, la poitrine oppressée, en un immense élan de reconnaissance envers la terre si belle et la vie si bonne.